Wagon Livre, votre émission littéraire. Wagon Livre, un voyage au cœur de l'actualité littéraire. Présenté par Yannick Petit. Wagon Livre, c'est tous les samedis de 11h à midi sur Radion.
Vous écoutez Radion, il est 11h passé de quelques minutes. Un très grand bonjour à toutes et à tous. C'est toujours un très grand plaisir de vous retrouver chaque samedi à pareille heure pour votre rendez-vous littéraire. En effet, jusqu'à midi, c'est Wagon Livre et aujourd'hui nous vous proposons la troisième et dernière partie de la rétrospective 2025. Au programme de notre émission de ce samedi 31 janvier 2026, nous réentendrons un extrait d'une émission avec Claude Chapuis. Claude Chapuis qui est peut-être à l'heure actuelle en Bourgogne un des meilleurs connaisseurs de l'histoire du vin de Bourgogne. Avec lui, nous reviendrons sur la notion de climat et nous aurons l'opportunité de consolider nos connaissances sur les cépages. Nous réentendrons également le créateur des éditions de l'Armançon, Gérard Gauthier. Gérard Gauthier qui, dans l'extrait qui vous sera présenté aujourd'hui, revient notamment sur sa rencontre avec Henri Vincenot et sur le succès d'un des romans d'Henri Vincenot, La Bibaude, en 1978. Un petit extrait avec Denis Grosdanovic, et puis nous rendrons hommage à quelqu'un qui nous a quittés à l'automne 2025 à l'âge de 102 ans. Je veux parler du médecin, romancier et militaire Pierre Fiot. Pierre Fiot que nous avions reçu dans un wagon livre courant avril 2014 et dans lequel il revient notamment sur ses engagements militaires. Vous l'entendrez dans une séquence au cours de laquelle il évoque la guerre en Indochine. Nous ouvrons notre wagon livre avec Oriane Jeancourt-Galignani que nous avions rencontrée à Dijon courant juin 2025. Alors Oriane Jeancourt-Galignani est effectivement romancière. Elle est également rédactrice en chef du mensuel Transfuge créé en 2004 par Vincent Jory et Gaëtan Husson. L'année dernière, nous l'avions rencontrée alors qu'elle était l'invitée du Club des écrivains de Bourgogne pour son dernier roman paru chez Grasset et intitulé « La dernière victoire possible ». Avant d'entendre Oriane Jeancourt-Galignani revenir sur son engagement dans l'aventure éditoriale de Transfuge, je voudrais juste rappeler que le prochain numéro de Transfuge sortira d'ici quelques jours, début février prochain. C'est un magazine qui se consacre à la culture contemporaine et qui, en fait, donne à la culture toute la place qu'on devrait lui attribuer. C'est une revue qui se veut résolument cosmopolite, universaliste, humaniste et pro-européenne. Tout de suite, écoutons Oriane Jeancourt-Galignani.
J'ai donc participé à cette aventure qui est le magazine Transfuge, qui est à mi-chemin d'un magazine et d'une revue consacrée, qu'on a créée il y a 18 ans, consacrée d'abord à la littérature étrangère, parce qu'à l'époque, à 18 ans, voilà, on avait 20-25 ans et on trouvait que la presse parlait beaucoup de littérature française, beaucoup de littérature américaine, mais que le reste, l'Europe, l'Afrique, était finalement assez peu traité dans la presse. Et nous qui lisions beaucoup de littérature étrangère, on s'était dit, tiens, on va créer une revue qui ne parlera que de ça. Donc on a créé Transfuge, Transfuge comme passer du côté de l'ennemi, donc là c'était parler d'autre chose, et donc entièrement consacré à la littérature étrangère. Donc on a fait ça pendant quelques années, et puis ensuite on a bien vu que c'était un peu limité de faire de ne s'intéresser qu'à ça, et on a ouvert à la littérature française, au cinéma, à l'art, aux arts, et donc à la musique et au théâtre. Et voilà, donc c'est une revue, un magazine qui occupe le plus clair de mon temps.
Quelle en est sa périodicité ?
Eh bien, c'est un mensuel. C'est un mensuel, c'est devenu un mensuel depuis 10-15 ans, donc c'est devenu un magazine à part entière qu'on peut trouver dans les kiosques, dans les librairies, depuis véritablement 10-15 ans. Et voilà, au départ, on était, il y avait un certain nombre d'écrivains qui participaient, il y avait David Fonkinos, il y avait Frédéric Becbédé, François Bégodeau, et donc c'est toujours resté un lieu où on avait envie de parler de différents arts, de la manière dont ils communiquent entre eux, de donner la parole dans des grands entretiens à des écrivains, à des artistes, à des metteurs en scène, à des acteurs, etc. De leur laisser 6-8 pages, parfois parce que dans la presse, ils n'ont plus vraiment la place pour s'exprimer comme ça, mais aussi de donner la plume à des écrivains pour parler d'art et de l'art qu'ils aiment. Et ça, je crois que c'est aussi présent dans mes romans, puisque souvent, je parle d'artistes, et on va sans doute en parler pour la dernière victoire possible, puisque le personnage principal est un peintre. Et c'est vrai que ma vie, depuis 15-20 ans, consiste à rencontrer des artistes, à parler avec eux et à aussi les écouter longuement.
Enregistré le 18 juin 2025, Oriane Jeancourt-Galignani, venue à Dijon pour y présenter son dernier roman paru chez Grasset et intitulé « La dernière victoire possible », roman dans lequel elle évoque la vie artistique à New York dans les années 70. Et bien justement, puisque nous avons affaire à une connaisseuse, je lui ai demandé de revenir sur le New York artistique des années 60, nous parler notamment du village et de l'artiste Marc Rothko. Oriane Jeancourt-Galignani.
C'est sans doute à ce moment-là, et peut-être pas avant, c'est sans doute à ce moment-là, c'est-à-dire dans les années 70, que New York devient le centre du monde artistique. Pour la peinture, c'est évident, puisqu'il n'y a pas tellement de peinture américaine après-guerre, et que tout d'un coup, dans les années 60, 70, 80, on va avoir Warhol, on va avoir Basquiat, on va avoir aussi tous les de Kooning, qui est au départ un peintre néerlandais, mais qui va faire sa carrière là-bas en partant dès les années 50-60. Donc on va avoir évidemment Rothko, on va avoir énormément d'artistes qui fuient ou qui ont fui pendant la guerre, ou qui fuient après-guerre l'URSS, l'Europe, et qui vont se retrouver là-bas, à New York, parce que c'est pas cher, parce que c'est là où sont les collectionneurs, parce que c'est là où sont les plus grands marchands d'art. Et donc c'est là que tout d'un coup, tout va avoir lieu. Ça, c'est pour la peinture. Pour la littérature, c'est la même chose. On est à la grande époque, évidemment, de la littérature américaine, et qui va vraiment trouver son apogée à ce moment-là, que ce soit dans la poésie ou dans les romans, puisqu'on a Norman Mailer, on va avoir Philip Roth. On a Kerouac qui est encore là dans les années 60. On a toute cette poésie américaine aussi. Ginsberg, que le personnage cite énormément, et on ne se rend pas compte, comme Ginsberg aujourd'hui, qu'on lit plus beaucoup, hein, ni aux États-Unis ni en France, mais à quel point il a révolutionné la littérature en prenant tout d'un coup, en racontant les rues de New York, en racontant ses amis, en racontant sa vie quotidienne, et en l'érigeant au niveau d'une mythologie qui sera lue partout dans tous ces mondes hippie et jazz, puisque évidemment New York c'est aussi la musique. Donc voilà, c'est vraiment le village de New York à ce moment-là, c'est là où on a les plus grands musiciens, les plus grands peintres et les plus grands écrivains du monde entier. Et tout ça dans une ville en ruine. Une ville déclarée en faillite quelques années après, une ville qui est traversée par la délinquance, une ville qui n'intéresse plus les promoteurs immobiliers parce qu'elle est trop dangereuse et qu'elle n'intéresse plus personne, à une époque où on pense que tout va se jouer ailleurs ou en Californie. Donc c'est évidemment une aubaine pour les artistes.
Alors je cite, voilà ce qu'était le village selon le rêve de mon père, des jeunes types du monde entier, des musiciens, des peintres, des poètes, réunis pour boire, montrer leurs travaux, réfléchir face à l'apocalypse et réciter des poèmes. Ça pourrait être encore d'une grande actualité, face à l'apocalypse.
Mais oui, mais est-ce que c'est encore à New York? Parce que New York est devenue tout autre chose. New York est devenue une ville très chère, une ville où les artistes ont du mal à vivre, et on sait que les Européens aujourd'hui restent en Europe. Un artiste russe aujourd'hui, un peintre russe, il ira plutôt à Berlin qu'à New York, ou alors seulement quand il sera devenu très très connu. Ce n'est plus une ville où on vient tenter sa chance.
Alors Willem de Kooning, vous nous en avez parlé. Je rappelle, c'est un artiste donc, d'origine néerlandaise. Il est mort en 1997. Dans le roman, il est présenté comme, je cite, « le peintre inépuisable de Greenwich Village ». L'Européen monté sur un bateau et débarqué dans cette ville pour y offrir ses women au corps virulent. Alors, il y a Marc Rothko. Alors, Marc Rothko, lui, il est mort en 1970. Alors, c'est comme notre héros, lui, c'est le peintre des grands formats.
dont le parcours pourrait ressembler un peu à celui du père Arnoux Bouvier, du français.
Si ce n'est qu'il a connu un grand succès. Mais oui, absolument, c'est pour ça que j'ai voulu en parler, parce que c'est vrai que Roscoe, si j'ai parlé de Kooning et de Roscoe, c'est parce que ce sont des artistes qui ont quitté l'Europe. Et donc, il y avait quand même cette idée de quitter l'Europe
pour aller... Oui, ce sont des immigrés,
voilà.
En fait.
Hein. Et mon héros veut faire la même chose. Il marche sur leurs traces de manière extrêmement consciente. Mais Roscoe, oui, absolument. Il va quitter l'URSS après-guerre. Il va faire partie d'une famille juive assez pauvre des États-Unis. Et puis, il va peu à peu gravir les marches et être reconnu, mais assez tardivement. Et finalement, il va se suicider alors qu'il aura, je crois qu'il n'avait pas 60 ans, dans son atelier en 1970.
Oui. Alors, donc, il avait eu un anévrisme qui l'empêchait de continuer à peindre des grands formats. Et l'impuissance à continuer à peindre a généré le suicide.
Absolument. Et quand on lit sa correspondance, qui est assez aride, qui n'est pas du tout comme celle de mon personnage, où on voit que c'est vraiment un intellectuel assez enfermé en lui-même, qui sans cesse parle de techniques, de mathématiques, d'idées. Et on voit bien que c'est quelqu'un d'aussi profondément mélancolique.
À l'instant enregistré courant juin 2025, Oriane Jeancourt-Galignani, que nous avions rencontrée à Dijon alors qu'elle était l'invitée du Club des écrivains de Bourgogne pour venir y présenter son dernier roman intitulé « La dernière victoire possible », toujours disponible en librairie aux éditions Grasset. Je rappelle qu'Oriane Jeancourt-Galignani est rédactrice en chef du magazine mensuel Transfuge. Elle est critique et l'auteur de plusieurs romans, mentionnant en 2017 Adamar et en 2020 La femme écrevisse. Si vous venez de nous rejoindre, vous êtes bien sur Radio Né à bord de son émission littéraire C'est Wagon Livre et nous sommes ensemble jusqu'à midi. Je vous propose un premier intermède musical tout de suite en compagnie de Renan. On s'habitue à tout.
S'habitue à tout, aux colonnes de Buren, à Duchamp, sa fontaine, aux coups de boule de Zizou, aux voix dans l'autotune, à nos villes qu'on enfume, à nos vilaines tours. On s'habitue à tout, voir vieillir ses parents, voir élus des tyrans, aux voix qui amadouent. À se méfier de ce qu'on mange, à se méfier des gueules d'anges, à plus se méfier du tout. On s'habitue à tout, mais ne plus dire je t'aime, s'en remettons quand même, ce baston de mots doux. On s'habitue à tout, pour l'amour qui part, les amoureux hagards s'en remettent au vaudou. S'en remettent au vaudou. On s'habitue à tout, à notre Eldorado, aux poumons remplis d'eau, aux urnes remplies de boue, au 21 avril, au réveil difficile et à celui des loups. On s'habitue à tout, au bruit de pas du dessus, à vivre un peu déçu, à vivre de peu de sous, à faire un peu l'autruche, sans remettre les bûches qui font battre le pouls. On s'habitue, c'est tout, à faire sa petite danse javanaise de l'absence, et j'en bave pas vous, mais on s'habitue à tout. On s'habitue à tout, mais ne plus dire je t'aime, s'en remettons quand même, ce baston. On s'habitue à tout, mais pour l'amour qui part, les amoureux hagards
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Rétrospective non exhaustive de l'année 2025 aujourd'hui dans votre émission littéraire. Je vous propose cette fois-ci de réentendre un extrait d'une émission diffusée le 8 février de l'an dernier avec Denis Grosdanovitch. Nous l'avions à ce moment-là reçu pour son essai intitulé « La gloire des petites choses » paru aux éditions Grasset. D'ailleurs, courant mars 2025, nous avions également reçu Denis Grosdanovitch pour « Une affaire de style » paru également aux éditions Grasset. Dans l'extrait que vous allez entendre, Denis Grosdanovitch, qui d'ailleurs, je le rappelle, a publié son premier livre à l'âge de 56 ans, Denis Grosdanovitch revient sur les merveilles littéraires oubliées parfois chez les bouquinistes. Denis Grosdanovitch est un passeur et dans l'extrait que nous allons vous proposer, vous allez l'entendre remettre un coup de projecteur sur des écrivains qui, selon lui, sont totalement oubliés ou ont été quelque part victimes du succès d'autres écrivains de l'avant-guerre en France. Il évoque notamment Paul Gaden et met en valeur Gabriel Chevallier et Georges Duhamel. Denis Grosdanovitch.
J'ai en projet un livre qui serait qui consisterait à évoquer la culture que l'on se forge soi-même en pratiquant les bouquinistes plutôt que les libraires. Parce que chez les bouquinistes, on trouve énormément de merveilles oubliées. Et moi, j'adore les merveilles oubliées. Il y a et comme on dit souvent, je le sais parce que beaucoup de libraires me l'ont dit, je suis un passeur, je parle beaucoup des autres écrivains. Et j'ai l'intention, dans ce livre-là, de réintroduire dans la littérature.
Enfin, réactualiser.
Réactualiser, oui, c'est ce que, le mot que je cherchais. Des auteurs oubliés. Et surtout dans l'entre-deux-guerres en France, il y a des auteurs prodigieux qui ont été occultés par des célébrités qui, pour moi, ne sont pas à la même hauteur. Par exemple, des gens comme Malraux ou Sartre ou encore ont occulté un très grand romancier qui est Paul Gaden. Et Paul Gaden, c'est à mon avis le plus grand romancier de l'avant-guerre en France. Je ne suis pas le seul à le penser. Hein. Il a été occulté par ces gens-là. Non seulement ça, mais il y a eu un académicien, d'ailleurs Georges Duhamel, quand même prix Goncourt 1920, avec un livre extraordinaire qui s'appelle « Civilisation », où il parle de ça. Son expérience de médecin à l'arrière de Verdun en 14, c'est le plus beau livre que j'ai lu sur la guerre de 14. Et en plus, il a un humour prodigieux. Il y a, par exemple, dernièrement, j'ai été invité dans une sorte de conférence faite par un philosophe à Paris. Il y avait 300 personnes et j'ai demandé. Tout le monde connaît ici dans l'assistance le mot cloche-merle. Tout le monde connaissait cloche-merle qui est le symbole même des petites luttes intestines, vous voyez, dans une municipalité provinciale. Tout le monde connaissait le mot cloche-merle et j'ai demandé qui a écrit cloche-merle.
Alors que c'est le titre d'un roman hyper célèbre qui s'est vendu à des millions d'exemplaires en
1934. 2 millions d'exemplaires
Gabriel
en 1934.
Gabriel Chevallier.
Voilà, mais personne ne connaissait le nom de Gabriel Chevallier sur les 300 personnes.
Alors Gabriel Chevallier a aussi écrit un roman intitulé La peur.
Absolument extraordinaire.
La guerre de... Alors là aussi.
Extraordinaire. Eh bien, il est complètement oublié.
Vous voyez, mais Denis, ça, c'est très sain de vouloir redonner une seconde jeunesse à des romanciers injustement oubliés. Mais finalement, qui se rappelle des premiers, qui lit encore les prix Goncourt des années 1920, 1930, on les a tous oubliés. Et pourtant, c'est des gens qui ont été sur le devant de la scène éditoriale à une époque.
Ce qu'on appelle maintenant, j'aime pas trop le franglais, mais ce qu'on appelle le turnover, c'est terrible, puisque encore quand j'ai commencé ma carrière d'écrivain assez tard, puisque j'ai publié mon premier livre à 56 ans, hein. Heureusement c'était un best-seller, ça m'a lancé, mais à l'époque, un livre restait en librairie à peu près 6 mois. Maintenant, c'est 2 mois.
Alors justement, est-ce qu'il n'y a pas une trop grande publication
d'ouvrages ? C'est évident. C'est le système pervers des retours, puisqu'on sait que les libraires doivent acheter le livre et ensuite, quand ils n'ont pas vendu ce livre, ça leur est remboursé par les éditeurs. Mais entre-temps, les éditeurs font de la cavalerie financière avec l'argent. Donc, par exemple, si un éditeur est en perte de vitesse, il va publier de plus en plus de choses pour faire de la cavalerie. Et donc, il publie tout et n'importe quoi.
Alors, qui sont les grands perdants ? Les maisons d'édition, les libraires, les lecteurs ? Et quel est le plus grand perdant dans
l'affaire ? Le lecteur.
Le lecteur ?
Oui. J'ai fait partie d'un grand prix littéraire. J'étais jury pendant 4 ans. Et puis j'ai démissionné dernièrement parce que je recevais 30 à 40 livres des éditeurs à chaque rentrée et je n'arrivais pas à les finir. Parce que c'était, la plupart des romans que j'ai eu à lire étaient ineptes. Et donc, évidemment, j'ai arrêté parce que je me suis rendu compte. Et j'ai lu dans les autos, il vaut mieux lire 30 fois un bon livre que 30 mauvais livres une seule fois.
À l'instant, un extrait d'un wagon-livre diffusé sur l'antenne de Radio le 8 février de l'année dernière avec Denis Grozanovic. Denis Grozanovic, je le rappelle d'ailleurs, a longtemps mené une double vie d'érudit et de tennisman professionnel. Il partage d'ailleurs aujourd'hui sa vie entre Paris et sa maison au bord de l'Yonne, dans la Nièvre, entre Clamecy et Vézelay. Denis Grozanovic qui a fait paraître un grand nombre d'essais, notamment le petit traité de désinvolture qui a obtenu le prix de la Société des gens de lettres et qui est devenu d'ailleurs au passage un livre culte. Il est l'auteur de Rêveurs nageurs, brefs aperçus sur l'éternel féminin, l'art difficile de ne presque rien faire. On mentionnera aussi en 2013 la puissance discrète du hasard, mais on peut aussi y ajouter le génie de la bêtise. Dandies et excentriques, les vertiges de la singularité. Et puis en juin de l'année dernière, il avait fait paraître Une affaire de style et notamment La gloire des petites choses pour lequel nous l'avions reçu sur Radion le 8 février 2025. Notre émission marque un nouvel intermède musical. Nous sommes ensemble jusqu'à midi. Je vous rappelle d'ailleurs que toutes les émissions que vous entendez aujourd'hui ne sont bien sûr que des extraits et que vous retrouvez ces émissions sur le site d'archives via internet www.yannickpetit.fr. Tout de suite, Cœur maladroit, interprété par Marine. On se retrouve juste après avec Gérard Gauthier, l'éditeur créateur des éditions de l'Armançon.
J'ai grillé tous les stops, trop de questions dans ma tête. J'aimerais me poser dans des bras qui m'enveloppent. Je passe toujours à côté, je les cherche en cachette. Dans mon horoscope, moi j'aimerais qu'on me dise mon avenir, qu'on me tease que des bonnes surprises et qu'on existe tous les deux. J'ai le cœur maladroit. J'ai pas le mode d'emploi pour aimer toi et moi, mon amour et mon karma. Il paraît que ça viendra, s'il te plaît, m'en veux pas. J'ai le cœur maladroit. Je ne connais pas la suite et mon cœur bat si vite, mon amour et mon karma. J'ai le cœur maladroit. Je suis plutôt raisonnable, sauf quand je pète un.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Poursuivons notre rétrospective de l'année 2025 avec Gérard Gauthier. Je vais vous faire entendre un extrait d'une émission diffusée le 1er mars 2025 avec celui qui a créé en 1987 les éditions de l'Armançon. Gérard Gauthier est né à Paris. En 1972, il devient pour Gallimard représentant à l'international et notamment pour la Suisse. Il a rencontré un très grand nombre de personnalités littéraires, parmi lesquelles François Nourricier, Romain Gary et Albert Cohen, qui l'a tant marqué. Dans l'extrait que je vous propose, Gérard Gauthier revient notamment sur Romain Gary, Michel Déon et sa rencontre aussi et le succès littéraire du roman de Henri Vincenot, Le Père à la Bourgogne, roman célèbre en 1978, La Bibaude, notamment après le passage de Henri Vincenot à Apostrophe sur Antenne 2, la fameuse émission de Bernard Pivot. Tout de suite, on écoute Gérard Gauthier. Il évoque sa rencontre avec Romain Gary.
Et Romain Gary, c'était certainement d'ailleurs un des auteurs qui m'a le plus, non pas posé de problème, mais le plus impressionné, parce que c'est un personnage étonnant. Il était très froid, très qu'on pouvait penser comme très distant.
Taiseux.
Oui, plutôt, oui. Et l'attaché de presse, Paul Neveglise, me dit « Il faut absolument qu'on envoie Romain Gary en Suisse. Est-ce que vous pouvez être là ? De toute façon, je l'accompagnerai. » Donc on se retrouve à Genève. Et il descendait au Continental. Et moi, j'étais quand même un peu dans les petits souliers, comme on dit, parce qu'il fallait que je l'emmène. Il avait un rendez-vous à l'association ABC, à la Chaux-de-Fonds, qui est une association qui avait été créée par des industriels de la Chaux-de-Fonds. Et là, il devait parler, il devait faire une conférence sur le roman. Et donc, on prend la voiture et on va à la Chaux-de-Fonds. C'était assez silencieux. Bon, tout ça se passe bien quand même. On dîne le soir avant la conférence. Ça se passe bien. Mais moi, j'étais vraiment pas très... pas très à mon aise, parce que il m'impressionnait beaucoup. Voilà. Alors Paul Neveuglise, elle le connaissait bien, ça allait. Enfin, tout se passe quand même très très bien. Ça c'était merveilleusement un homme charmant finalement, beaucoup moins impressionnant que je l'avais craint. Et fallait qu'il rentre à Paris, et donc le lendemain matin, on repart de la Chaux-de-Fonds pour rentrer à Genève. Et là, il me dit. J'aimerais bien qu'on passe rue du Rhône. Alors la rue du Rhône, pour ceux qui connaissent Genève, c'est là où se trouve Davidoff. Et donc je dis, ben, il n'y a pas de problème, monsieur Gary, on va passer rue du Rhône. Et donc là, j'ai un grand numéro du vendeur de chez Davidoff qui connaissait évidemment Romain Gary. Il l'appelait monsieur l'ambassadeur, il avait été ambassadeur à Berne. Et donc là, j'ai vu la grande classe de ce Davidoff qui vendait ses cigares à la terre entière. Quoi. Et c'était un grand souvenir, parce que lui, c'était une chose, mais pratiquement tous les auteurs me demandaient de passer rue du Rhône. Donc j'étais presque aussi connu que les auteurs quand j'arrivais à rue du Rhône.
Un petit mot d'un romancier. Moi, je retiens par exemple les titres de ses romans, Un taxi mauve, Les poneys sauvages... c'est Michel Déon.
Une des plus belles rencontres que j'ai faites dans ce milieu. C'est un homme d'une délicatesse exquise, d'un humanisme. Moi, j'aimais beaucoup ce qu'il écrivait, c'est une chose. Mais l'homme était remarquable, vraiment.
Et qui deviendra membre de l'Académie française.
Il sera membre de l'Académie française, il finira ses jours en Irlande, autour du Taxi Mauve, des poneys sauvages, etc. Mais il avait publié beaucoup de choses avant, à la Table Ronde, entre autres, le Balcon de Spetzai, enfin, des choses très... très belle sur la Grèce, parce qu'il a partagé son temps à un moment donné entre la Grèce et l'Irlande. Et puis, bon, moi je l'avais reçu, comme j'ai reçu les autres auteurs, évidemment. Et quand je suis retourné à Paris, que j'ai quitté la Suisse, lui était chez Gallimard, il venait régulièrement pour la promotion de ses livres. Et c'est un de ceux qui ne m'a jamais snobé, si je puis dire. C'est-à-dire que chaque fois que se rencontrait... C'était le même plaisir que lorsque j'avais reçu en Suisse. C'était, Voilà, c'était toujours le sourire, toujours un mot aimable. Enfin, non, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup aimé.
Vous avez parlé de René Fallet. René Barjavel, donc des écrivains qui sont devenus par la suite des amis. Et il y a le troisième, dont le nom a été évoqué il y a quelques minutes, c'est Henri Vincenot. Alors Henri Vincenot, on le sait, Gérard Gautier, en 72, vous essayez de le faire connaître des Suisses et c'est plutôt un bon coup. La presse le remarque, son passage à la radio suisse en fait un personnage pittoresque. Et vous avez aussi contribué grandement à encourager Henri Vincenot à publier un roman qui s'appelle La Bibaude et qui va voir le jour en 78. Mais alors, que de travail entre-temps, j'allais dire de travailler Vincenot au corps et l'encourager à mettre de l'ordre dans ses notes.
Alors il se trouve que donc on voyait Henri régulièrement, puisque quand on venait ici en Bourgogne le week-end, et que moi je suivais, il avait, après le Pas d'Escargot, il avait publié Le Sang de l'Atlas, et puis entre-temps, Hachette avait une collection, peut-être à toujours d'ailleurs, qui s'appelait La vie quotidienne au temps de, et Hachette lui avait demandé de faire une vie quotidienne au temps des chemins de fer, au 19e. Donc Henri Vincenot dit oui, moi je suis chez De Noël. Et, oui, mais nous c'est une collection, c'est un peu à part. Donc il va voir Albert Blanchard qui lui dit bah oui, attends, c'est pas un roman, c'est pour une collection, aucun problème, allez-y. Donc il fait La vie quotidienne dans les chemins de fer et il est interviewé par Jacques Chancel dans Radioscopie. Il y avait plus de Pas d'Escargot, il était épuisé. C'était donc quand. Je ne voudrais pas dire de bêtises, 75, 76. Et il fait son émission. Pendant tout le temps de l'émission, il ramène au Pas des Escargots, ce qui fait qu'il devait signer à la maison de presse de la gare Saint-Lazare, puisque il avait, la vie du rail était rue de Milan tout près. Et donc, après l'émission de Radioscopie, il va faire cette signature. Et là, les gens, évidemment, lui demandent « Ah ben, le Pas d'Escargot, on voudrait bien le Pas d'Escargot. » Et donc, il revient et dit « Ah ben, tout le monde m'a réclamé le Pas, etc. » Donc, j'arrive à décider, Albert Blanchard, de faire une réimpression du Pas d'Escargot. Et en même temps, Pivot avait entendu l'émission de Radioscopie. Et il s'était dit, c'est quand même un personnage. Et juste après, il sort La vie des paysans bourguignons au temps de Lamartine, toujours dans cette collection Hachette. Et c'est là où Pivot le fait venir à Apostrophe pour la première fois, où il fait un numéro extraordinaire, où il se met à chanter avec Dupuis, avec Pierre Miquel. Bon.
Il y a Jean d'Ormesson aussi.
Ah non, ça, d'Ormesson, c'est après.
C'est un autre passage.
Un autre passage, c'est le passage d'après. Et là. Donc, il a ce succès avec La vie des paysans bourguignons. Et puis, un week-end, peu de temps après, je le vois, on était en Bourgogne, il me dit « Oh, je suis embêté. » Je dis « Qu'est-ce qui vous arrive ?» Il dit « Voilà, il y a un plomb qui me tanne pour que je fasse un livre chez eux dans la collection Terre humaine, l'équivalent de ce qu'a fait Jacques Ézélias avec Le cheval d'Orgueil. » Ah ben, je dis « Non, là, Henri, vous ne pouvez pas faire ça. » Les livres chez Hachette, là c'est un roman, c'est. Mais vous avez donc quelque chose ? On me dit oui, j'ai des tas de choses, mais bon, mais j'ai pas envie de le taper. Puis qu'est-ce que je fais ? Il m'envoie un contrat, je dis si vous n'êtes pas d'accord, vous déchirez le contrat, et puis. Puis vous faites le livre. Oui, mais je peux pas le taper, c'est trop compliqué. J'ai dit, moi je vais vous proposer, je vais vous amener un petit magnétophone, puis vous allez le lire, vous allez lire vos feuilles, et puis on vous le fera taper, puis vous corrigerez. Ah bah oui, peut-être, pourquoi pas, etc. Donc je rentre à Paris, je dis à Albert Blanchard, voilà ce qui se passe, faites ce que vous voulez avec votre bourguignon. Donc le week-end d'après, je descends avec mon petit magnéto. Je le donne à Henri, qui commence à lire, qui se prend au jeu et qui trouve ça sûr, et qui donc dicte tout son texte, qu'on fait corriger au fur et à mesure par une secrétaire, et que lui reprend systématiquement, corrige à la main de la frappe. Et ça devient La Bibaude. Et là, c'est là où le miracle se produit, c'est que Pivot le fait venir, et avec Jean d'Ormesson, et ils font un numéro à eux deux qui est exceptionnel. Et le lendemain, on n'avait plus... Enfin, vous savez, à l'époque, chaque fois qu'il y avait une apostrophe...
Donc c'était le vendredi soir.
C'était le vendredi soir. Le samedi matin, les gens allaient chercher. C'était extraordinaire. Et 15 jours avant, les représentants le savaient et donc faisaient mettre en place les livres des 5-6 auteurs qui étaient là le vendredi. Et là, évidemment, ils avaient mis en place le Abbey Baud et on a été épuisés. C'est-à-dire il était à peine sorti qu'on n'en avait plus. Donc il a fallu qu'on réimprime à l'infini, comme ça, pendant un an entier.
C'était Gérard Gontier. Extrait d'un wagon-livre diffusé le 1er mars 2025, Gérard Gontier, qui a créé en 1987 les éditions de l'Armançon, qu'il a animé durant 30 ans. Les éditions de l'Armançon, 128 auteurs, 330 titres et une trentaine de prix littéraires. Concernant d'ailleurs le succès du roman de Henri Vincenot, La Bibaud, on rappellera que ce roman a connu un tirage de 2,5 millions d'exemplaires, toutes éditions confondues, en poche, club, etc. Et je souhaiterais ajouter que le 150 000e exemplaire a été fêté en Côte d'Or à Saulieu, au relais Bernard Loiseau, en août 1978. Nous allons vous proposer un nouvel intermède musical. Nous allons écouter « Soldats, ne tirez pas », un titre de Gérard Lenormand. Et ensuite, nous rendrons hommage à Pierre Fiot, qui nous a quittés à l'automne 2025, à l'âge de 102 ans. Pierre Fiot, médecin, écrivain, résistant et militaire, qui nous a donc quittés. Nous l'avions reçu dans Wagon Livre, le 9 avril 2014, sur l'antenne de Radio, il avait raconté notamment son parcours dans la résistance, son engagement dans l'armée en Indochine et également durant la guerre d'Algérie. Ce sera l'occasion de revenir sur un épisode de la guerre d'Indochine. Un hommage rendu à Pierre Fiot que vous entendrez juste après la virgule musicale que nous vous proposons. C'est Wagon Livre sur Radio et nous sommes ensemble jusqu'à midi.
La chasse aux déserteurs, et déjà les soldats encerclent la colline. C'est un beau soir de printemps, mais j'ai froid et j'ai peur, debout devant ma porte, à portée de fusil. Soldats, ne tirez pas, je ne suis pas armé. Soldats, ne tirez pas, je vais vous expliquer. Dans la chambre du bas, ma femme est endormie. Soldat, laissez-la-moi jusqu'à demain midi. La 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 la, la 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 la. Comme vous, je me suis fait des bottes en peau d'anglais. J'ai même été blessé, j'ai presque eu la médaille. Puis un jour j'ai déserté, j'ai brûlé mes papiers. J'ai rôdé comme un loup pour revenir chez moi. Soldat, ne tirez pas, ma femme est dans le lit. Soldat, ne tirez pas, elle fait mon petit. Elle a les bras en croix, elle respire fort. Soldat, ne tirez pas, laissez-nous vivre encore. La 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 la, la 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 la. S'il vous plaît, assistez-moi, faites chauffer de l'eau. C'est notre premier-né, je ne sais pas m'y prendre. Notre couverture est mince, il faudrait un manteau. Soldat, je vous suivrai quand j'aurai mon enfant. Soldat, ne tirez pas, vous ne m'avez pas vu. Soldat, ne tirez pas, portez-moi disparu. Soldat, ne tirez pas, entrez dans la maison. Soldat, embrassez-moi, soldat, c'est un garçon. La 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 la, la 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 la. C'est un garçon. La 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 la
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Dans notre rétrospective 2025, nous souhaitions rendre un hommage à un écrivain, résistant et militaire français qui nous a quittés le 27 septembre de l'année dernière en Côte d'Or, à Talent, précisément à l'âge de 102 ans. Je veux parler de Pierre Fiot. Pierre Fiot, qui est né à Dijon en 1923. Pierre Fiot, à l'âge de 20 ans, est un résistant. Il échappe à la mort lors du massacre du maquis de Voisines, en Haute-Marne. Il s'engage ensuite comme sous-lieutenant d'infanterie dans l'armée de Delattre de Tassigny pour partir en Indochine. Là, il s'extasie devant la jungle laotienne. Et puis ensuite, après l'Indochine, Pierre Fiot s'installe au Zouaïdia, en Kabylie, alors département français, comme médecin, et il affronte la violence d'une Algérie au bord de l'implosion. On rappellera aussi que Pierre Fiot fait partie des médecins sans frontières, des tout premiers qui ont découvert l'horreur de la famine au Biafra en 1968, médecins sans frontières animés entre autres par Bernard Kouchner, celui que Pierre Fiot considéra comme un frère pour la vie. Je rappellerai aussi, et ça c'est important, en 1969, Pierre Fiot a été le médecin d'Alain Poher, président du Sénat, qui assurait l'intérim après le départ du général de Gaulle. Je vous propose tout de suite d'entendre Pierre Fiot justement revenir sur son expérience de combattant en Indochine. Il s'agit d'un extrait d'une émission diffusée le 9 avril 2014.
Mes camarades ont approuvé, en général mes amis, mon action dans la résistance. Bon, après la résistance, je me suis engagé à la première armée française du maréchal Delattre. On a continué en Alsace et en Allemagne. Et puis après, celui qui avait été tout de même notre chef, le grand patron, celui qu'on considérait comme le sauveur de la France, qui avait permis à la France de s'asseoir à la table des quatre grands négociateurs de la capitulation allemande, nous avait dit « L'empire colonial est nécessaire à la grandeur de la France ». Je le cite. Comment, nous qui l'avions suivi à une époque où les Français n'étaient pas si chauds que ça pour le suivre, comment nous ne l'aurons pas suivi?
Et donc, suivi par idéologie.
Alors, l'Indochine, il nous dit, il faut défendre l'empire colonial. On y va. Et en plus, pour bien marquer sa décision, il envoie son plus charismatique général, le général Leclerc, celui qui a libéré Paris, qui est allé jusqu'à Berchtesgaden, le nid d'aigle d'Hitler. Bon, comment on n'aurait pas pu le suivre? C'était notre patron, c'était celui pour qui c'était le bon Dieu. Et donc, on va en Indochine. Bon, alors c'est vrai qu'en Indochine, petit à petit, le contexte peut changer. Mais d'abord, je ne veux pas tricher. Je suis parti là-bas parce que vraiment de Gaulle l'avait demandé. Mais en même temps, ça me convenait en ce sens que quand à 20 ans, vous avez eu des copains tués un peu dans différents endroits, et que, bon, vous n'êtes pas très très enclin à mener une vie normale, c'est un parfum d'aventure, l'Indochine, c'est vrai. Et puis une fois là-bas, vous découvrez un autre continent, avec tous ses mystères, avec toute la beauté et la tristesse aussi de cette région.
Je vous cite, Pierre Fiot, vous parlez des odeurs, des couleurs, les mirages de ce Laos aux mille facettes, ma jeunesse quoi, laissant la guerre en toile de fond.
Voilà. C'est exact.
Je
ne dirai pas mieux maintenant.
Parlez-nous un peu de la jungle. Et c'est vrai.
Mais la jungle, c'est
ça. C'est une image qui reste très.
C'est traversé. Oui, la vraie jungle laotienne. Vous pouvez marcher 2-3 jours dans l'épaisseur de cette végétation extraordinaire. Ou parfois, pendant un jour, vous voyez pas le ciel tellement c'est important. Il y a les gibbons, les sifflements des gibbons, ces singes hurleurs. Il y a ces oiseaux de paradis. Il y a ces villages de temps en temps où on est accueilli. Bon, et puis c'est vrai qu'en toile de fond il y a la guerre, et je dois dire que ce que je dis ça va choquer, mais par moments c'est vrai que la guerre en elle-même a un côté un peu excitant, attirant. C'est vrai, je vais choquer énormément de gens, mais quand vous, et d'ailleurs si à la guerre vous n'avez pas un petit peu ce côté, vous ne serez peut-être pas bon. Je pense que il y a cette camaraderie, cette aventure, ce risque que vous prenez.
Bon, à la guerre, on tue.
Hein?
À la guerre, on tue.
À la guerre, on tue ou on est tué?
Oui.
Et oui, mais encore une fois, ce n'est jamais nous qui déclarons les guerres. C'est jamais ceux qui les font qui déclarent les guerres. On va là-bas parce qu'on nous demande d'y aller. Bon, et à partir de là, on va pas pleurer sur notre sort. On est là-bas. Mais je ne dis pas que c'est bien ou que c'est mal. Je donne ma réaction à moi de type de 20 et quelques années en pleine Indochine où nous étions censés maintenir l'empire colonial français. Est-ce que je leur ferai encore.
Est-ce que vous repartiriez défendre les couleurs françaises dans un territoire lointain?
C'est impossible de répondre à ça, parce que si je me mettais dans le contexte de l'époque, j'obéis au général de Gaulle. Bon, maintenant, c'est inutile, mais c'est un peu puéril comme discussion.
Alors, quand on lit « Quand souffle la folie », vous racontez une chasse au tigre, vous racontez cette aventure d'homme aussi, ce peuple que vous aviez côtoyé, qui vous a accueilli généreusement, qui vous a fait boire du tchoum.
Ouais,
c'est quoi le tchoum,
Pierre? Tchoum, c'est une espèce d'alcool de riz. Très fort.
Et puis il y a des belles jeunes filles, on appelle ça les Fusao, c'est ça?
Les Pusao.
Ah, les Pusao. Les Pusao. Et puis il y a tout de même un danger quand on se promène dans la jungle, c'est les sangsues. J'aimerais bien que vous nous expliquiez.
Oui, ben non, c'était plein de petites sangsues.
Mais ce n'est pas des sangsues médicales, c'est des toutes
petites sangsues. Non, des toutes petites sangsues qui pénètrent par les œilletons des chaussures. Je crois qu'il va mieux marcher pieds nus souvent, et qui pénètrent partout et qui parfois peuvent donner des inconvénients graves au point de vue santé. Si c'est pénètre dans des endroits, il ne faut pas aller.
Les militaires français se sont-ils bien comportés en Indochine? Parce qu'aujourd'hui, on a une tendance un petit peu à faire repentance. Vous connaissez un peu ce discours.
Oui, c'est un mot que je hais. C'est un mot que je hais, la repentance. On aura beau dire tout ce qu'on veut, je n'admets pas ce mot. Quand on est allé là-bas, on y est allé parce qu'on y croyait, parce qu'on nous avait envisagé, parce que c'était à l'époque ce qu'on croyait devoir faire. Souvenez-vous de ces écoles depuis la communale, ces cartes de géographie avec les cartes du monde et en rose toutes les possessions françaises, en jaune toutes les possessions anglaises, tout l'empire colonial anglais, et c'était la lutte entre les deux, non, on en a plus qu'eux, etc. Et c'était, à l'époque, l'empire colonial faisait partie, comment dirais-je, de l'âme de la France. Et quel était son apogée? L'exposition coloniale de Paris en 1931, qui était le sommet de l'apogée de cet empire colonial. Bon, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de gens qui remettaient en cause. Bien sûr, maintenant, quand on connaît la suite, tout ça paraît dérisoire et inutile. Mais on ne peut pas refaire le monde. On ne peut pas refaire des époques où ce qui est vrai à midi n'est plus vrai à 7h du soir.
C'était notre hommage à Pierre Fiot, disparu l'année dernière à l'âge de 102 ans. Pierre Fiot, écrivain, résistant et militaire. C'était extrait d'un wagon-livre diffusé le 9 avril 2014. Je rappelle quelques-uns des ouvrages de Pierre Fiot. Le vent de la Toussaint, un médecin dans le Djebel, ça c'était en 1967. Les remparts du silence chez Robert Laffont en 1985. Quand souffle la folie, toujours chez Robert Laffont en 2005. Et puis, très largement autobiographique, mais c'est un roman paru aux éditions de l'Armançon en 2010, Le Carnaval des Ardents. Notre hommage donc à Pierre Fiot dans cette rétrospective 2025. Je vous propose cette fois-ci un extrait d'un wagon-livre que vous avez pu entendre le 22 novembre de l'année dernière avec Claude Chapuis. Claude Chapuis qui a écrit Charlotte Frappillon, La Dame des Vignes, un roman paru aux éditions Lire à l'Est. Il s'agit d'une émission enregistrée en public le 9 octobre de l'année dernière à la galerie de peinture de l'artiste Yannick Perrin, dans le cadre du Cercle des auteurs bourguignons, un événement littéraire organisé par le libraire de ce mur, Cyril Lefebvre. Alors, dans l'extrait que vous allez entendre, Claude Chapuis revient sur la notion de climat. Il y en a d'ailleurs 1247. La notion de climat qui reflète souvent la nature du sol. Et puis surtout, ça sera notre grand moment œnologique, l'opportunité de réviser ses connaissances sur les cépages, la ligotée, le pinot noir, le gamay, le melon, le muscadet ou le pinot gris. Claude Chapuis, tout de suite, que je vous propose de réentendre.
faut dire que le vin n'a jamais été aussi bon qu'aujourd'hui. Alors s'il y a des nostalgiques qui vous parlent du vin, il y a eu des grandes années comme 1929, comme 1934, 1947, 1959. Mais là, dans l'ensemble, les vins qu'on fait aujourd'hui sont excellents. Autrefois, on était content quand on faisait 3 bonnes récoltes sur 10. Maintenant, on en fait 8 sur 10. Oui. Et de ce point de vue-là, alors petite parenthèse, mais de ce point de vue-là, le réchauffement climatique a été plutôt bénéfique jusqu'à maintenant. On pense que jusqu'à 2050, ça ira. Après, c'est là que les gros problèmes apparaîtront et c'est pour ça qu'il faut agir dès maintenant pour se prémunir contre tous les inconvénients du réchauffement.
Juste avant la pause musicale, je disais que nous parlerions des climats. Alors, la notion de climat, c'est lié au cadastre du vignoble, c'est ça, Claude. Oui. Alors là, je parle devant un haut spécialiste.
Oui. Alors, la notion de climat est apparue au XVIIIe siècle, en gros. Mais elle a repris les noms qui avaient été donnés à la vigne au Moyen Âge. Alors, les noms de ces climats reflètent souvent la nature du sol. Vous avez les argilières, par exemple. Vous avez les chaillots. Les chailles, c'est des pierres. Vous avez... enfin, beaucoup de noms qui font référence à... Vous avez le Clos de la Roche, par exemple. C'est de la Roche, un endroit où on plantait la vigne à la dynamite, hein, parce que la roche affleurait. Donc, ou alors, la nature de la végétation. Vous avez, par exemple, Chassagne. Chassagne, c'est une chênaie, un endroit qui était planté de chênes. Vous avez le Mont Raché. Le Mont Raché, lui, c'est raché, rachitique, c'est... colline qui est chauve, hein, il y a pratiquement pas de végétation, etc. Donc c'est assez fascinant de voir l'origine de ces noms qui reflètent la nature.
Mais le classement là, de ces climats au patrimoine immatériel hein, de l'humanité, l'UNESCO, oui. De l'UNESCO, est-ce que ce n'est pas un peu complexe, voire artificiel?
Ah, alors, pour être complexe, oui, ça l'est, parce que... il y en a 1247. Pour les connaître, il faut avoir une mémoire extraordinaire. Bon. C'est sûr, mais c'est parfaitement logique. Ça n'a jamais été remis en question. C'est un travail qui a été fait au fil des ans, enfin surtout par les moines qui ont détecté les meilleurs endroits pour cultiver la vigne et qui ont créé, alors les moines, les aristocrates ont créé les clos. Au passage, si vous entourez une vigne d'un mur, un beau mur, vous n'avez pas le droit de l'appeler clos. Il faut que ça ait été authentifié au Moyen Âge, par exemple. Donc il y a des règles très strictes concernant les climats.
Justement, parlons un petit peu des cépages, Claude, parce qu'on en retrouve certains. Alors, la Ligotée, le Chardonnay du pauvre.
Oui, ça a été comme ça. Alors maintenant, la Ligotée revient en faveur, parce que le problème avec la Ligotée, c'est un cépage qui est très prolifique et qui n'arrivait pas à maturité. Alors Henri Vincenot appelait ce cépage, et qui était aussi dénommé vin de Troyes. Alors, il disait 23, c'est parce qu'il donnait 3 raisins par branche au lieu de 1 pour le pinot, hein, ou le chardonnay. Et Henri Vincenot disait 23, c'est parce qu'il faut 3 personnes pour le boire, 1 personne pour tenir le verre et 2 personnes pour retenir la personne sur sa chaise.
Alors, il y a le pinot noir. Alors, le pinot noir, est-ce qu'il est exclusivement bourguignon?
Ah oui.
Le pinot noir, c'est
originaire de la Bourgogne, ça, oui, c'est absolument sûr.
Alors, le gamay dans le Beaujolais, le melon...
Le gamay, originaire de Bourgogne, mais banni de Bourgogne en 1395 par le duc Philippe le Hardi.
Et pourquoi banni, alors?
Parce qu'il l'appelait déloyal. Déloyal gamay, c'était un cépage productif. Et lui, il voulait encourager la qualité. Et là, pour être juste, c'est plutôt sa femme qui connaissait le vin. Sa femme était flamande et les Flamands étaient des grands clients pour le vin. C'était eux qui avaient l'argent. Et Marguerite de Flandre, la femme de Philippe le Hardi, on pense que c'était elle qui était derrière l'édit.
Alors, il y a le melon des pays nantais. À Vézelay, il y a du melon dans le Yonne.
Oui, il en reste un peu en Bourgogne. Alors, il y avait pas mal de melons de Bourgogne qui a été banni aussi. Banni alors par le roi d'Espagne, parce que il poussait surtout en Franche-Comté, dans la comté de Bourgogne. Et donc banni de là, et il y avait des gens qui étaient attachés au melon, qui sont partis des sortes d'énologues conseils le long de la Loire et qui ont atterri dans la région de Nantes. Et en 1709, qui est l'hiver le plus froid le plus dévastateur qu'on ait jamais connu depuis qu'on enregistre les températures. 90 à 95% des vignes ont crevé en France. Et parmi celles qui ont survécu, il y avait le melon de Bourgogne, donc autrement appelé le muscadet.
Alors, il y a le vin gris aussi ?
Oui. Alors, pour terminer avec le muscadet, le melon de Bourgogne, était appelé le pourrisseux dans le Val-de-Saône, parce que c'est un cépage qui pourrit assez facilement. Bon, pardon. Alors
non, le vin gris de Toul, par exemple.
Oui, alors il y a aussi le pinot gris. Hein, il y a le pinot gris, pinot beurre, on l'appelle.
Alors le pinot gris, par exemple, dans Lyon, c'est au niveau de Joigny.
Oui, c'est oui, ça. Oui. Alors le pinot beurre, on l'appelle chez nous, c'est en raison de la robe de bure des moines, hein, beurre bure, oui, qui est interdit en Bourgogne pour les vins d'appellation. On peut le faire pour des vins ordinaires, mais pas pour des vins d'appellation. Alors ça fait un peu mal parce que c'est le quatrième cépage le plus planté en Italie et aux États-Unis, on ne parle pas de Pinot Beuro ou de Pinot Gris, on parle de Pinot Grigio.
Vous avez pu entendre à l'instant Claude Chapuis enregistré en public dans le cadre du Cercle des auteurs bourguignons. C'est un événement culturel et littéraire organisé par le libraire de Semur en Aussois, Cyril Lefebvre, et on enregistre en public à la galerie de peinture Yannick Perrin, en Côte d'Or, donc dans cette belle cité de Semur en Aussois. Je vous rappelle le titre du roman de Claude Chapuis, Charlotte Frappillon, La Dame des Vignes, c'est aux éditions Lire à l'Est. Et puis, il y a quelques années, Claude Chapuis avait fait paraître toujours un roman, mais aux éditions Le Pythagore, une fiction intitulée La maison dans les vignes. Je rappelle que Claude Chapuis est fils de vigneron, natif d'Alloscourton. Claude Chapuis a travaillé la vigne en Allemagne, en Suisse, en Californie, en Australie, en Nouvelle-Zélande et au Chili. Il est enseignant à la BSB à Dijon, c'est la Burgundy School of Business. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages sur la vigne et sur l'histoire du vin de Bourgogne. Il anime une émission sur RCF intitulée « Le chemin des vignes » et il rédige la chronique « La lettre de la cabote » dans la revue trimestrielle « Pays de Bourgogne ». Je vous rappelle que si vous souhaitez retrouver les noms des auteurs que vous avez pu entendre aujourd'hui ainsi que les références de leurs ouvrages, vous vous rendez sur le site d'archives de l'émission via internet www.yannickpetit.fr. Je vous salue bien sûr et vous remercie d'avoir été en notre compagnie. Je vous donne rendez-vous samedi prochain, 7 février, toujours à 11h sur Radion. Je vous proposerai un entretien avec un écrivain et grand reporter. Je veux parler d'Olivier Weber, qui a fait paraître aux éditions Gallimard « Ma vie » avec Gérard de Nerval. Olivier Weber qui a publié des romans, mais également des essais, dont « L'enchantement du monde » et puis « Le dictionnaire amoureux de l'aventure ». Olivier Weber a reçu notamment le prix Joseph Kessel, le prix Albert Londres et le prix du livre européen et méditerranéen. Samedi prochain, donc, on revient sur la vie et l'œuvre du poète Gérard de Nerval. Bonne journée à l'écoute des programmes musicaux de Radio, un excellent congé de fin de semaine. Au revoir et à samedi prochain.